RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, c'est parti pour les GG, pour les grandes gueules. Coup d'envoi de l'émission du débat, de la discussion depuis 20 ans, 21e saison des GG. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Dans les grandes gueules, aujourd'hui nous sommes avec Antoine Dierce, consultant auprès des entreprises, le Dunkerquois. Bonjour mon cher Antoine.
Salut cher Alain et bonjour à tous.
À tes côtés, l'éducateur Abel Boyi. Bonjour.
Salut les amis.
Et puis l'avocate Sandrine Pégan nous accompagne aujourd'hui. Bonjour maître.
Merci, bonjour à tous.
Nous avons des vacances à vous faire gagner, il ne faut pas l'oublier si vous avez envie de changer d'air. Si vous avez envie de vacances, le séjour Bel Embras, c'est pour vous, les amis, dans un séjour d'une valeur de 2000 euros à la mer ou à la montagne. Vous regardez l'agenda, vous regardez le catalogue Bel Embras, vous choisissez les, parmi les 45 destinations. C'est un all-inclusive premium. Il suffit d'envoyer vacances par SMS au 732-16. Vacances par SMS au 732-16. À vous de jouer. À vous de gagner. Quoi de neuf aujourd'hui? De quoi allons-nous parler dans les GG, dans les grandes gueules? Un, on aura François Ruffin tout à l'heure avec les GG à 11h. On parlera de la Suède où on envisage la prison des 13 ans. Des Français qui deviennent parmi les pays les moins riches en Europe. Les Français, on va même être dépassés par les Polonais, c'est vous dire. Commençons d'abord par l'opération porte ouverte en France. Opération porte ouverte, ça s'appelle l'immigration.
J'ai réussi à baisser de 40% les régularisations, de 15% les naturalisations, d'augmenter les interpellations de 30%, les éloignements de les augmenter de 20% significativement, ce qui fait qu'aujourd'hui la France est de tous les pays européens celui qui éloigne le plus. Voilà, maintenant j'aurais voulu, c'était une des raisons de la dissension, ne pas avoir seulement à gérer les sorties, mais aussi les visas. C'est ce que j'essayais d'obtenir du président de la République et du Premier ministre. Je n'y étais pas parvenu. Mais tant qu'on n'aura pas compris que pour maîtriser les flux, c'est pas d'abord les sorties qu'il faut maîtriser, c'est d'abord les entrées. Regardez avec l'Algérie. On va délivrer plus de 250 000 visas. Et combien de QTF dangereux nous reprennent-ils? Quelques unités. Ça a guère changé tout cela.
C'est l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui parlait, qui dit « De mon temps, moi, ça allait, j'expulsais le problème. » C'est les entrées, d'où l'expression « Est-ce qu'aujourd'hui, avec ces chiffres de l'immigration, c'est opération porte ouverte en France ?»
Oui, parce que on a beau expulser davantage, et c'est vrai que les chiffres confirment ce que dit Bruno Retailleau, le problème, c'est qu'on accueille davantage aussi d'étrangers. Donc, on en accueille plus qu'il y a de départ. Donc, on a une population étrangère qui augmente. La France n'a jamais accueilli autant d'étrangers sur son territoire. Les titres de séjour sont en très nette augmentation, plus 11% sur un an, ce qui représente 384 230 personnes qui sont entrées sur notre territoire. Alors, bien sûr, il y en a qui en sortent au même moment, mais le solde est positif. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces chiffres, qui sont des chiffres officiels, que personne conteste, tordent le cou à certaines idées reçues. C'est pas le motif économique qui est le motif principal de cette immigration. C'est même un motif qui recule. L'immigration de travail ne représente que 13% des titres de séjour. C'est rien, contre 17% en 2024. En revanche, le nombre de titres de séjour pour motifs humanitaires explose, voilà. Plus 65% en un an. C'est un quart des titres de séjour. Ensuite, les titres de séjour, c'est surtout pour des motifs familiaux et pour les étudiants. Donc, tout le débat qui consiste à dire on a besoin d'une immigration de travail, sans doute, c'est vrai, mais c'est pas l'immigration principale de notre pays. Donc, on a quand même l'impression que rien n'est vraiment maîtrisé, comme le disait d'ailleurs l'ancien ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'on peut peut-être être plus ferme sur les sorties, mais sur les entrées, et ça dépend du ministre des Affaires étrangères, du ministère des Affaires étrangères, on continue d'ouvrir les portes.
Antoine ?
Je préférerais avoir tort dans tout ce que je dis ici, mais les chiffres me donnent raison. L'immigration française n'est absolument pas régulée, et c'est pire que ce que tout le monde imagine. Bruno Retailleau, qui avait de la volonté, nous explique que même avec la volonté au ministère de l'Intérieur, il n'est pas parvenu à faire quoi que ce soit, malgré quelques petites réussites. Tu l'as dit Olivier, c'est 384 000 titres de séjour délivrés en 2025, mais ça, ce sont les titres hors renouvellement, hors étrangers issus de l'Union européenne et hors mineurs étrangers. Pour tout vous dire, sur une année, c'est 4,3 millions de titres de séjour valides en France. Donc il y a les nouveaux, mais il y a 4,3 millions
et tous ceux qui sont renouvelés
de titres de séjour. Ça représente les populations de Paris, plus Lyon, plus Marseille, plus Toulouse. Est-ce qu'on imagine un petit peu le niveau de présence d'étrangers dans notre pays ? Ensuite, pour donner un autre chiffre, vous vous souvenez tous du gouvernement Jospin qui avait fait des régularisations massives, très ouvertes sur la question des étrangers, des socialistes.
Ça existe ailleurs, en Espagne, ils vont régulariser 500 000 personnes.
Mais pour donner un ordre de grandeur, nous sommes à 3 fois plus d'étrangers aujourd'hui que sous le gouvernement Jospin, qui se vantait d'être très ouvert à la question de l'immigration, etc. Alors, le point aussi essentiel, c'est la question du motif travail. Tu l'as dit, Olivier, le motif travail, contrairement à ce que tout le monde nous dit, était déjà très bas et il s'effondre encore. Non, les étrangers ne viennent pas majoritairement en France pour travailler. Et ceux qui viennent en France pour travailler sont souvent sous-qualifiés par rapport aux immigrations qui arrivent vers d'autres pays.
C'est marrant, sur l'immigration de travail, on a 30% de chute sur les titres pour travailleurs saisonniers. Et d'après les enquêtes, ça montre que la France est de moins en moins attractive, même au niveau du salaire.
Exactement.
Pour les étrangers.
On en reparlera en évoquant la Pologne tout à l'heure sur la question des salaires. Mais pour finir, je redonne les 4 premiers pays dont sont originaires les étrangers qui bénéficient d'un titre de séjour. Maroc, Algérie, Tunisie, Afghanistan. Y a-t-il des personnes particulièrement qualifiées qui arrivent de ces pays pour être utiles à notre économie ? Y a-t-il des personnes particulièrement facilement intégrables qui arrivent de ces pays, et notamment l'Afghanistan,
aujourd'hui, c'est titre humanitaire, c'est humanitaire.
Mais oui, comme l'Ukraine.
Eh bien, on peut revenir sur le sujet humanitaire.
Parce qu'on aurait juste envie de fuir le régime des talibans. Quoi.
Aujourd'hui, sur les demandes d'asile, une demande sur deux est acceptée. Accepté soit directement, soit accepté avec l'aide d'avocats.
Stop, voilà, on verrouille, on arrête.
Pour terminer là-dessus, voilà, on va jusqu'à la Cour nationale du droit d'asile. Et donc, il y a 500 millions d'étrangers qui sont admissibles à l'asile en France. Est-ce qu'on doit arrêter ? Je pense que oui.
Abel ?
Alors, ce qui est important de noter, c'est l'explosion par rapport aux faits humanitaires. Parce que la réalité, c'est qu'il y a le motif familial, il y a le renouvellement de plein droit, et quand on voit les mélanges des chiffres aussi, il y a 2 millions de visas touristiques qui ont été aussi attribués en 2025. Et quand on prend cette cause humanitaire, les 3 premières populations concernées sont les Ukrainiens d'abord, en 2, les personnes issues de la République démocratique du Congo, et en 3, les Afghanistans. Donc, est-ce qu'on parle d'une immigration qui est hors de contrôle ? Je ne pense pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Je pense que là où il y a le souci, c'est le sujet des OQTF, tout en précisant que tous les OQTF ne sont pas des personnes qui sont forcément à expulser, parce qu'il y a des personnes qui ont le statut d'OQTF de façon momentanée par rapport à une lenteur administrative. Je prends le cas, par exemple, de la sœur Fatima Benomar, que vous invitez souvent sur BFM lorsqu'il y a des problématiques de violences faites aux femmes. Elle a été, malheureusement, sous le statut d'OQTF à un moment, parce qu'il y avait eu un retard administratif par rapport à des documents, et ensuite retard qui a été résorbé. Voilà, exactement. Donc, quand on parle même de la notion d'OQTF, faut qu'on fasse très attention. Effectivement, les délinquants, les criminels, ça, il n'y a pas de problème, faut les dégager. Et il y a ce problème éternel de certains pays qui ne veulent pas les récupérer.
Il n'y a que 10% donc, d'OQTF expulsés, oui, donc il y a
ça,
de la marge.
Sur 150 000 personnes, ça, je suis d'accord avec ça. Et bien entendu, la question aussi de certains migrants qui rentrent de façon illégale, effectivement. Donc il y a ces deux aspects-là. Maintenant, pour le reste, est-ce qu'on peut parler d'une immigration hors de contrôle ? C'est-à-dire que ça laisserait entendre qu'on serait submergé par une vague d'immigrés qui serait en train de déferler sur le terrain. Je ne pense pas que quand on se balade en France, quand même, qu'il reste un pays ultra majoritairement blanc de personnes de phénotype caucasien, quand on se balade à la campagne ou autre, on a l'impression d'être submergé par les immigrés. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aborder les problèmes, mais il faut de la nuance parce qu'on sait qu'en plus, c'est le sujet.
Il n'y a pas de grand remplacement, c'est ce que tu veux dire.
Non, la France est un pays ultra majoritairement blanc. Il joue sur les mots de façon très malhonnête d'ailleurs. Donc voilà. Il y a certaines problématiques qu'il ne faut pas éluder parce que le défaut de la gauche, c'est d'éluder tous les problèmes, de faire comme si tout va bien. Donc, il y a des problèmes sur les capacités d'accueil, il y a des problèmes sur certains flux migratoires, mais il faut faire attention à ne pas faire de ce sujet encore
l'épouvantail, quoi. Le sujet épouvantail, Sandrine.
Surtout à l'approche des présidentielles.
Moi, je trouve qu'à chaque fois, il y a toujours des titres qui sont assez racoleurs. On voit sur tous les magazines, la France n'a jamais accueilli autant d'étrangers. Juste, je vais être un petit peu pédagogue, mais alors vraiment, de façon très très laconique, il y a quand même les étrangers, il faut savoir ce que c'est, il y a quand même plusieurs statuts, d'accord ? Donc au niveau de l'asile, il y a le statut réfugié avec une carte de 10 ans, il y a la protection subsidiaire, ça c'est pour les Ukrainiens et pour les Afghans essentiellement, donc là aussi une carte de 4 ans, après il y a les titres de séjour, étudiants, 1 an qui sont renouvelables, etc. Donc quand on parle étranger, il faut regarder déjà tout ce qu'il y a derrière. Maintenant, moi je ne dis pas, il ne faut pas accueillir personne, je dis juste qu'à un moment donné, il faudrait qu'on soit un peu clair dans nos choix. C'est soit on accueille et on intègre, soit alors on refuse et on éloigne. Parce qu'à un moment donné, on peut pas jouer sur les deux tableaux. Mmh. Parce qu'on échoue sur les deux tableaux. Oui, Abel, tu parlais du problème des OQTF, mais c'est bien là où est le problème. Mais là, tout le monde est en train de se renvoyer la balle et ça va être comme ça jusqu'en 2027. C'est-à-dire qu'il y a personne n'a de solution pour les renvoyer.
Gérald Darmanin, oui, on en a parlé dans les GG, lui, oui, il propose la tolérance de stopper net l'immigration pendant 3 ans.
Moratoire.
Impossible. C'est impossible. Même Éric Ciotti disait ce matin que c'était impossible.
Pourquoi ce serait impossible? En fait, pardon, mais on sent très bien là que les Français sont majoritairement opposés à l'immigration telle qu'on la connaît aujourd'hui.
La
ils veulent changer, mais en réalité, nous n'avons plus les manettes. Et vous me répondez, c'est impossible, parce qu'en réalité, c'est le juge qui décide. C'est le juge qui décide du regroupement familial. C'est le juge qui décide d'octroyer une protection subsidiaire ou de l'asile, alors même que c'est une décision parfaitement politique. Le choix migratoire, le choix de recevoir dans notre pays des étrangers ou non, c'est une décision politique. Eh bien, vous le dites, nous n'avons plus la main sur cette décision parce que le pouvoir est parti dans les mains
des
juges.
On ne l'a jamais eu.
Et donc,
pardon, je me souviens d'un Nicolas Sarkozy. Je me souviens d'un Nicolas Sarkozy, donc ça remonte, hein, qui nous expliquait d'une immigration choisie. C'était le grand débat à l'époque, avec des quotas.
Et ça avait déjà été censuré par le juge.
Dans la dernière loi immigration.
Ça a été censuré.
Dans la dernière loi immigration, ça n'a pas été censuré. On dit il y a des secteurs en tension. Et dans certains secteurs en tension, on accepte de recevoir des immigrés, notamment restauration, bâtiment, etc.
Les articles quotas par nationalité ont été censurés.
Ça, c'est vrai.
Donc, ça montre bien que le juge nous empêche d'avoir une politique migratoire.
Sauf que, quand on voit précisément cette immigration, c'est pas une immigration tellement de travail, c'est plutôt une immigration du regroupement familial.
Alors ça, c'est tabou.
Non, parce qu'on peut plus.
Oui, je sais.
Non, on peut plus parce que c'est inscrit désormais dans les tables de loi. Le Conseil d'État a statué en disant qu'on ne pourra jamais revenir sur le regroupement familial.
Mais si on fait ça,
c'est vrai. Je suis assez d'accord. C'est que on voit bien que les Français ont envie que ça bouge. Et le Conseil d'État, le Conseil 40% constitutionnel,
40% dit, des renouvellements, c'est le regroupement familial.
Nous disent, on peut pas que ça bouge. C'est pour ça que certains disent, préconisent le référendum, puisqu'il y a un référendum à valeur constitutionnelle. Ouais. Et c'est pour ça que c'est porté par certains candidats, surtout à droite, un référendum comme ça, on peut statuer sur est-ce qu'il faut continuer le regroupement familial, est-ce qu'il faut des quotas pour en faire une immigration choisie. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on est un peu bloqué.
Mais c'est surtout que si on demande l'avis aux gens, on clôturerait le sujet. Moi, je suis persuadé que si on fait une bonne fois pour toutes un référendum, et les Français vont pas vous dire zéro, on n'en veut plus, et on les met tous dans des bateaux, ils vont vous dire non, on veut être raisonnable. Je suis persuadé qu'on irait là-dessus. Et si on met en place une politique migratoire raisonnable, on protège les immigrés arrivés de longue date qui vont plus se sentir visés par tous ces débats, et on protège l'intégration correcte de ceux qui arriveraient maintenant. Aujourd'hui, c'est le pire choix de dire celui qui en parle, c'est un facho et on peut rien faire. C'est le pire choix parce qu'on n'arrange personne en
France. Mais Antoine, on a besoin de l'immigration. Regarde, la France est vieillissante. Pourquoi Sanchez, en Espagne, il va régulariser 500 000
travailleurs.
Immigrés
travailleurs.
Travailleurs, oui, pour leur donner des droits.
Pareil, ils ne prennent que des travailleurs.
Vieillissant.
Et nous, on prend des étrangers malades et des enfants.
Mélanie, elle n'a pas régularisé 400 000 immigrés.
Des travailleurs sur la base du travail.
Mais Mélanie, elle régularise, mais elle expulse. C'est-à-dire qu'elle choisit. C'est-à-dire qu'elle dit, j'ai besoin, parce que l'Italie est un pays, c'est le pays le plus vieux au monde, hein, en termes de population. Donc on a besoin de main-d'œuvre. Ce que va faire l'Espagne, hein. Mais derrière, on n'accueille pas tout le monde. C'est-à-dire régulariser, tu peux à la fois réguler, régulariser. C'est deux choses, c'est pas choquant.
Une fois que la personne, alors, d'accord. Prenons ces deux exemples, Espagne, Italie. Une fois que la personne, tu l'as fait venir pour le travail, si derrière elle dit, écoutez, moi non, ça fait 3, 4, 5 ans que je travaille, est-ce que ma famille peut me rejoindre?
J'allais y venir.
Parce que c'est ce qui s'est passé dans les années 70, on fait venir une immigration de masse pour les industries françaises, et derrière, pourquoi est-ce qu'on fait le regroupement familial? C'est pour permettre à ces personnes qui sont venues bosser pour la France
de se stabiliser en France.
Ben voilà, c'est normal que maintenant que vous êtes stabilisé en France, on fasse venir votre famille. Donc si tu veux, voilà, une logique en entraîne une autre, quoi.
Ouais, mais ça a été même pire, c'est-à-dire que le discours discours des politiques français, c'était de dire qu'on fait venir une immigration qui allait retourner chez elle. C'était ça le discours initial. Ensuite, il y a eu.
Ça existe aussi.
Oui, mais initialement,
des Marocains, des Tunisiens, des Algériens qui chaque année retournent dans leur pays.
Non, mais bien entendu. Mais c'est-à-dire que même il n'y a pas, comment dire, une pédagogie qui est rassurante vis-à-vis de la population française autochtone, si je peux me permettre cette expression. On a dit, ils vont venir, ils vont repartir. Ensuite, il y a le regroupement familial qui est arrivé avec un flux effectivement qui a pu être ressenti,
Oui, c'est un regroupement familial élargi aussi.
Oui, bien entendu. Non, mais il y a toujours des gens qui abusent.
Si c'est ta femme et tes enfants, mais si c'est tes cousins.
Mais la problématique des Français, je te laisse la parole, c'est-à-dire, c'est pas la personne qui se comporte bien, c'est le délinquant, c'est le criminel. C'est ça surtout. Et lorsque l'on parle même du regroupement familial, c'est pas le fait de faire venir sa famille.
Mais c'est pas seulement une question. Mais non, c'est pas une question seulement délinquance. C'est une question aussi de modèle social. Pardon. Ce qui coûte le plus cher en France, c'est les dépenses sociales. C'est là où on met le plus d'argent.
Mais qui utilise le plus les dépenses sociales?
Les immigrants.
Mais non,
qui utilise les dépenses sociales?
Mais non, mais non, mais c'est tout le monde, les aides sociales. Mais non,
les immigrés sont plus représentés dans nos logements sociaux.
Il y a plus de gens au guichet, forcément, alors qu'on a moins d'argent.
Mais la majorité des gens qui bénéficient des aides sociales, ce sont les Français blancs. C'est un pays majoritairement.
Mais j'ai pas dit le contraire.
Non, mais j'ai pas dit que
c'est plus gros.
La majorité, c'est les Français.
Aujourd'hui, on est en train de faire croire que ce sont les immigrés.
J'ai jamais dit ça.
J'ai pas dit que tu as dit ça.
Mais moi, je parle
en même temps.
Les immigrés.
Attendez, je te laisse la parole. On laisse croire que ce sont les immigrés qui bouffent les aides sociales en France.
Non, j'ai pas dit ça.
Je suis désolé.
J'ai dit que ça
va dans les agences pour moi. J'habite à la campagne, pardon. Oui. Je suis désolé. La majorité des personnes qui bénéficient des aides sociales en France, ce sont des Français blancs.
Ils sont pas les immigrés.
Alors, la discussion est lancée. La discussion est lancée. Elle va continuer dans un instant avec Ali du côté de la Loire. Il est chauffeur poids lourd. Il y a le problème de l'immigration, c'est surtout derrière l'intégration. Alors, est-ce que la France, c'est opération porte ouverte pour l'immigration? Vous venez en discuter avec nous au 32-16, avec Sandrine Pégan, avocate, Abel Boyer, éducateur, et l'ami Antoine Diers, consultant auprès des entreprises. Il est
9h20. RMC, 9h, midi. Les Grandes Gueules. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Gigi, les Grandes Gueules en direction RMC, RMC Story avec vous. On regarde les chiffres de l'immigration qui sont donnés par la Direction Générale des Étrangers en France, avec un pic historique de 4,5 millions de titres de séjour valides. Ali veut réagir dans les GG, chauffeur poids lourd. Bonjour Ali.
Bonjour, salut les GG.
Salut Ali, qu'est-ce que vous en dites alors? Est-ce que ça veut dire que c'est hors de contrôle, que c'est opération porte ouverte, on doit s'inquiéter? Dites-moi alors.
Alors aujourd'hui, moi je vais juste faire un constat. L'immigration, c'est comme un bon repas au restaurant, hein. On s'est assis, on a mangé. Et ben maintenant, il faut payer l'addition malheureusement. Aujourd'hui, il faut payer l'addition. Et si je peux me permettre, parce que moi je veux prendre le cas, il y a eu quand même un deux poids deux mesures sur l'immigration. Parce que moi où j'habite, on a récupéré des Ukrainiens il y a quelques temps. Et aujourd'hui, quand on fait le constat, eux ont été entièrement intégrés. Mmh. Par contre, on a récupéré des Érythréens. Eux, par contre, on les a mis dans un immeuble. Et aujourd'hui, bah, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Rien. Ils sont toute la journée aérés à droite,
Ali,
à gauche, malheureusement.
Ali, une question, vous utilisez le verbe intégrer comme si c'était à l'État d'intégrer les populations étrangères arrivées, alors que moi j'utilise l'expression
les deux sens.
Moi j'utilise l'expression s'intégrer. S'intégrer, c'est un acte volontaire de s'intégrer à la population dans laquelle on arrive.
Antoine, moi je vais vous répondre. Aujourd'hui, je suis d'accord avec vous, mais en fait, quand vous n'expliquez pas les codes d'un pays, comment vous voulez que eux les utilisent? Aujourd'hui, de leur dire de venir, c'est bien, mais derrière, de leur expliquer comment ça va fonctionner, ce qu'on peut faire avec eux, ce qu'on peut leur apprendre, leur apporter, ce que eux peuvent apporter. Si eux ne le savent pas, ils vont rien faire. C'est comme un chômeur. Si un chômeur, il se pointe pas au Pôle emploi pour aller regarder du travail, il va rester chez lui, il est payé, il en a rien à faire. Et ben eux, malheureusement, c'est la même chose pour eux. Eux, ils sont là, ils attendent. Ils attendent parce que personne ne leur a expliqué les codes. Personne ne leur donne leur chance, parce qu'il faut aussi leur donner leur chance. Ça aussi, c'est autre chose. Moi, je vous ai dit.
C'est sûr qu'il vaut mieux tenter la France que les
Ukrainiens. J'ai vu les Ukrainiens, comment on les a intégrés. Moi, je suis chauffeur poids lourd. Moi, je suis chauffeur poids lourd. J'ai vu pas mal d'Ukrainiens aujourd'hui qui sont dans des camions. On a été les récupérer en Ukraine. Et aujourd'hui, eh ben, ils servent à la cause de la France parce qu'ils travaillent en tant que chauffeur poids lourd. Mais par contre, pour d'autres, même s'ils sont venus en situation de...
Parce qu'ils étaient déjà chauffeurs poids lourds chez eux, peut-être aussi.
Ouais, mais les gens qui viennent, même ceux qui viennent dans l'irrégularité, ils ont deux mains, ils ont deux jambes, ils peuvent faire quelque chose. Mais pour ça, il faut leur donner leur chance. Et leur
mais s'ils sont en situation irrégulière, a priori,
pour corroborer ce que dit Ali, il y a eu aussi le sujet des places en crèche dans certaines grandes villes où des familles ukrainiennes, on leur a trouvé des places en crèche pour leurs enfants tout de suite, et qu'il y avait des familles françaises qui attendaient depuis des années, des fois, qui se sont plaints, y compris sur Paris. Donc effectivement, on voit qu'il y a un choix.
Ali, je vous remercie de votre intervention. Merci, salut, bonne journée, bonne route, Ali.
Merci beaucoup.
Ali de la Loire, on va accueillir Dang Yong qui est avec nous, qui nous appelle du 15e arrondissement Paris. C'est un voisin de palier quasiment. Bonjour Dang Yong.
Bonjour.
Médecin généraliste. L'immigration alors en France, est-ce qu'on doit en faire aujourd'hui un sujet, s'interroger sur est-ce qu'elle est hors de contrôle ou pas? Dites-moi.
Oui, pour moi elle est tout à fait hors de contrôle depuis plusieurs années. Moi, j'ai eu la chance que la France m'y accueille dans de bonnes conditions.
Vous venez d'où ?
Je suis de Corée du Sud.
D'accord.
Ah. Oui. J'ai eu la chance d'être bien accueilli, bien formé. Enfin, j'ai fait des études. Voilà, je suis médecin aujourd'hui.
Mais les études, vous les avez fait où ? En Corée du Sud ou ici ?
Ah non, ici, je suis en France depuis l'âge de 11 ans.
D'accord.
Oui. Donc aujourd'hui, j'ai 36 ans. Et je trouve qu'aujourd'hui, la France n'est plus en capacité d'accueillir comme on a pu faire autrefois.
C'est-à-dire pourquoi ?
Parce que je trouve que le système est débordé. Moi, pour renouveler mon titre de séjour, j'ai mis plus de 3-4 mois pour obtenir un rendez-vous à la préfecture. Donc j'ai dû poser des jours de congé, au cabinet, à l'hôpital. Ouais. Et plus récemment, j'ai demandé un regroupement familial pour mon épouse. Je me suis marié il y a 2 ans.
Et elle est en Corée toujours ?
Elle est toujours en Corée, donc je fais des allers-retours tous les six semaines.
Vous n'arrivez pas à la faire venir.
Marquis, vous avez des miles, là, vous êtes passé platinium. Hein.
Si, on voyage avec Air France. Si, monsieur est patriote.
Le problème, c'est que depuis l'année dernière, il y a l'histoire de visa touristique qui est valable que sur 3 mois, sur 6 mois glissants. Donc, elle a déjà passé 3 mois. Donc là, il faut qu'elle attende encore quelques semaines avant de pouvoir venir. Et entre-temps, c'est moi qui retourne.
Ouais, donc c'est pas si simple.
Votre exemple vraiment me hérisse le poil. C'est-à-dire que nous avons des accords bilatéraux qui favorisent la capacité pour un Algérien à faire le regroupement familial. Ouais. Et pendant que vous, qui travaillez, qui êtes utile, etc., vous n'arrivez pas à faire votre regroupement familial.
D'accord avec la Corée du Sud.
Ça montre bien, en réalité, et c'est ce que je disais tout à l'heure, que notre système n'est pas bon et qu'il dégoûte même les étrangers qui viennent pour travailler. Si avec cet exemple-là, on ne me dit pas qu'on marche sur la tête, je ne sais plus quoi faire.
Pour les Algériens, je vais juste expliquer une chose, parce que le process, il n'est pas si simple que ça au niveau du regroupement familial. C'est minimum 1 an.
Il existe un accord spécifique
sur les Algériens.
Laissez parler, Maître
Pécresse. Il a commencé à parler des Algériens. Je te dis juste que moi, dans mon cabinet, j'ai justement des process de regroupement familial pour les Algériens, et ce n'est pas si simple que ça. C'est minimum 1 an de procédure. La constitution du dossier, il est épais comme ça, il doit être. Tu dois ramener plein de documents, etc. Tu dois demander des visas. Un an minimum.
Si c'est si dur qu'il passe par la procédure normale, alors ?
Mais c'est la procédure normale. Donc le regroupement familial pour les Algériens, il n'est pas si simple que ça. Et c'est la même chose qui se passe pour la Corée.
Mais non, c'est beaucoup plus dur pour tous les autres.
Donc Guillaume, je voulais savoir, moi, aujourd'hui, vous êtes français ou vous avez la double nationalité, dites-moi ?
Non, je suis coréen. Je suis coréen. En fait, on n'a pas le droit d'avoir la double nationalité avec le service militaire qui est obligatoire en Corée du Sud.
D'accord.
Et j'ai préféré garder ma nationalité coréenne.
Pourquoi ?
Oui, d'ailleurs, ce serait intéressant de savoir pourquoi. Parce que la naturalisation, vous auriez droit, pour le coup.
J'y songe de plus en plus, mais pour le moment, le fait d'abandonner ma nationalité d'origine, de naissance, j'arrive pas encore.
Oui, on peut comprendre. Mais voyez, c'est là où effectivement, je suis désolé, Antoine n'a pas tort, on marche sur la tête. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est intégré, qui est médecin chez nous, qui veut faire venir son épouse qui est coréenne, et on l'emmerde pour ça. Je suis désolé. Je termine, Sandrine. À côté, on a des types qui sont au QTF, qui sont des zinzins, s'en prennent à des personnes âgées. On en parlait hier, et on est un foutu de les mettre dehors. Pardon, les Français.
Sont au QTF, non, mais c'est a posteriori.
Maître Pégan, il va nous dire oui, la justice, etc. Mais la justice, elle marche sur la tête. elle emmerde, elle, et la préfecture, l'administratif, c'est plutôt l'administratif, elle emmerde ce pauvre médecin de Corée, et en revanche, elle fout la paix à des types dont on veut plus voir la présence sur notre territoire. Non, les Français, ils entendent ça, ils deviennent dingues. Bah, après, il faut pas s'étonner, ils deviennent dingues.
Tu peux pas faire des raccourcis comme ça.
Mais c'est pas des raccourcis, c'est la réalité.
Tu vois bien qu'il y a des problèmes administratifs avec, et d'ordre diplomatique.
L'administration est nulle.
Avec tout ce qui est
Et là, parce que notre diplomatie française est nulle, je suis désolé, tout le monde le voit.
Allez-y, Dong Yong, pardon.
Et le pire, c'est que moi, j'ai une petite sœur qui est orthodontiste. Et elle est mariée à un Français. Elle a une fille française. Mmh. Ça fait 7 mois qu'elle a demandé son renouvellement de titre de séjour. 7 mois. Elle a toujours pas.
Voilà. Pourquoi, c'est ça l'administration française.
Pourquoi c'est juste une question de. Parce que l'administration est ankylosée ou c'est une demande systématiquement de pièces justificatives, dites-moi.
Ah, mais elle a fourni toutes les pièces justificatives depuis dès le début. Et là, elle attend une réponse depuis 7 mois.
Mais parce que les préfectures sont surchargées.
Mais arrête, ils sont 35 heures. On bosse pas dans les préfectures.
Mais Olivier, alors déjà,
enfin,
il est 9h30.
Mais Sandrine, tu m'énerves là ce matin.
Mais
dans les préfectures, c'est vrai, c'est l'endroit où le boss le plus, c'est les préfectures. C'est connu en France.
Terrible.
Ah, ben mais ça, c'est vrai. Tu bosses dans une préfecture. Oh là là.
Eh ben alors viens, on fait passer les fonctionnaires à 39h ou 45h.
Je vais te montrer des gens qui bossent. Je vais te montrer des artisans, des agriculteurs. Eux, ils bossent, effectivement. Me dis pas que dans les préfectures, on est débordés.
Ils sont débordés.
Mais tu supprimes les 35.
Il y a tellement de dossiers, il y a tellement de renouvellements, etc. C'est en ça que je dis qu'il faut changer. Donc on est d'accord, il faut arrêter d'être porte ouverte. C'est ce que je disais au début, c'est soit on accueille, on intègre, soit on refuse et on éloigne.
La moyenne pour tes dossiers de régularisation et autres, c'est quoi, ça prend combien de temps alors en fait? Ils sont surchargés les préfectures,
c'est des usines à gaz. Déjà pour les renouvellements, c'est très compliqué et en plus on doit prendre des rendez-vous, mais là c'est les rendez-vous, on les a même 3 mois, 6 mois après avoir pris une date sur internet, parce que tout se passe par internet maintenant. Et sinon après, quand tu vas sur place, moi ça dure minimum un an.
C'est à la fois germinal.
Dong Yong, je vous remercie d'avoir été avec nous. Dong Yong, merci bien, merci de votre exemple. À bientôt, merci, à bientôt pour une nouvelle discussion. Reda, ingénieur dans les Hauts-de-Seine, qui veut réagir aussi. Bonjour Reda.
Bonjour tout le monde.
Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez alors de ces chiffres d'immigration et de ce que l'on met en perspective là aujourd'hui, Reda? Alors dites-moi.
Alors moi je suis cette histoire d'immigration depuis très longtemps. Donc pour la petite histoire, moi je suis arrivé en France en 2004. Donc je suis marocain. Enfin aujourd'hui je suis franco-marocain. Donc je suis arrivé en France en 2004 via un titre de séjour étudiant pour faire des études en école d'ingénieur. Et je suis resté depuis. J'ai basculé sur un titre de séjour salarié. Et puis, j'ai finalement été naturalisé il y a un peu plus de 5 mois.
Ça vous a pris combien de temps, du coup, au total?
La naturalisation, c'est très long.
Au total, 21 ans, à peu près.
Voilà. D'accord.
Le tout.
Vous avez mis combien de temps, excusez-moi, pour être naturalisé, Reda?
Alors, pour être naturalisé, c'était un peu plus compliqué. En fait, j'ai fait deux demandes de naturalisation. J'ai demandé d'abord en 2010. En 2010, on m'a dit que j'étais pas assez intégré parce que j'étais en alternance. Donc, en alternance, il y avait... à l'époque, en tout cas, on devait déclarer zéro sur la fiche d'impôt, et donc ça posait problème en termes d'intégration professionnelle. Donc j'ai été ajourné, et puis j'ai pas redemandé, et j'ai demandé ensuite en 2022. Et donc là, la dernière demande de naturalisation a pris quasiment 3 ans.
Voilà. Et ben voilà.
Ouais, c'est normal. Donc, en même temps, en naturalisation, on te donne quand même la nationalité française. C'est normal que ça prenne du temps.
On peut pas donner ça aussi. Dans tous les pays, c'est comme ça.
Mais ça tord le cou à toutes les personnes qui disent que c'est facile.
Ah, mais l'indemnisation, ça a été même durci. Oui, on parle de ça, on parle des titres de séjour.
Oui, mais la manière dont le discours il est apporté, non, et en plus, on sait toujours quelles sont les populations.
Reda, attendez, la question vérité, c'est aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ça dysfonctionne pour l'immigration et aujourd'hui en France ou pas, Reda?
Alors moi, déjà personnellement, je suis pour une immigration qu'on qualifie de choisie. Donc je suis pour ça. Mais de ce point de vue-là, je pense qu'on peut pas faire beaucoup mieux aujourd'hui, parce que l'autre immigration, c'est l'immigration qui vient soit de l'asile, des demandes d'asile politique, soit soit du regroupement familial. Le regroupement familial, à ma connaissance, fait partie de la Déclaration des droits de l'homme européenne. Mmh. Et donc on peut pas vraiment, enfin normalement, on y a
pas touché.
On peut pas y toucher. Donc ce serait renier un droit relativement fondamental. De l'autre côté, du côté des titres de séjour étudiants et des titres de séjour salariés, enfin les contraintes sont extrêmement fortes. Par exemple, lorsque je suis arrivé en France en 2004, donc j'ai été étudiant. Ensuite, je suis passé salarié en 2010. En 2010, à partir du moment où j'ai signé mon CDI, mon premier CDI, je n'avais pas le droit, en fait, in fine, de quitter mon entreprise durant les 12 premiers mois. Donc j'étais vraiment attaché à l'entreprise parce que l'entreprise était en quelque sorte mon sponsor. Donc il y avait déjà cette première contrainte.
12 mois, ça va, c'est pas non plus...
Oui, mais c'est vrai que l'employeur, du coup, est une vraie garantie aussi pour la préfecture.
Un mot peut-être pour Reda sur ce qu'on vient d'entendre. Le regroupement familial, vous l'avez dit, serait issu de la déclaration européenne des droits de l'homme. En réalité, la déclaration des droits de l'homme européenne des droits de l'homme dit le droit à une vie privée et familiale. Et c'est le juge qui en a déduit, du droit à la vie privée et familiale, que cette vie privée et familiale devait forcément se faire chez nous. Et qu'elle ne pouvait pas se faire dans le pays d'origine.
C'est
une construction jurisprudentielle. Je termine. Et ensuite, vous avez le parcours typique d'une immigration, et c'est pas du tout contre vous, mais d'une immigration qui se fait un peu malgré nous. C'est-à-dire que on nous dit il faut accueillir des étudiants étrangers. On en accueille environ 1 million. Il y a 1 million d'étudiants étrangers. Et après, l'étudiant étranger ne rentre pas dans son pays.
Allez-y, Reda.
Majoritairement, il reste.
Imaginez la situation suivante, parce que vous imaginez deux étrangers ensemble, en fait. Et je vous donne le cas en fait, qui va vous parler plus. C'est un Français qui se marie avec une Française. Enfin, pardon, un Français qui se marie avec une étrangère. Mm-hmm. Dans ce cas-là, c'est bien un regroupement familial.
Aussi.
Mm-hmm. Donc, on est d'accord. Est-ce que dans ce cas-là, l'étrangère a le droit de venir vivre en France avec son mari?
En l'occurrence, marier un Français, oui.
Bah oui, mais ça fait partie du regroupement familial.
Mais donc un étranger sur le sol qui demande le regroupement.
Oui, mais
je suis
en train de dire que c'est par rapport au regroupement familial.
Donc vous pensez un étranger avec un étranger qui sont sur le sol français, c'est ça?
Oui.
Bah dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on a accepté que le premier étranger entre en France?
Mais c'est bien ce que je vous dis. Par exemple, on l'a accepté pour ses études. Et
Reda,
c'est ce qui se passe après.
Je vous remercie d'avoir conclu notre discussion, Reda.
J'aurais voulu répondre au deuxième point, mais...
Allez-y, je vous laisse 30 secondes.
Désolé. Oui, concernant le deuxième point, concernant le fait que je sois resté... En fait, quand on bascule du titre de séjour étudiant vers salarié, en fait, on repasse par une procédure qui est encore plus compliquée. Et là, on vérifie la liste des métiers en tension. Et d'ailleurs, cette liste des métiers en tension, elle existe depuis extrêmement longtemps. Les gouvernements vous font croire que cette liste est une nouveauté depuis 3 ans, mais en fait, pas du tout. Elle existe depuis au moins 2004. Donc, on passe par cette vérification des métiers en tension. On doit passer par la direction de l'emploi. Et c'est là qu'on est validé. J'ai un ami dont le père est l'une des personnes les plus riches du Maroc qui s'est fait refuser son titre de séjour parce qu'il avait fait une école de commerce et ça ne faisait pas partie... son métier ne faisait pas partie de la liste des métiers en tension.
Et d'autres se maintiennent sur le sol sans passer par cette procédure.
Merci Reda. Notre immigration est-elle sous contrôle, hors de contrôle? Est-ce que c'est opération porte ouverte? On en a parlé. Est-ce qu'elle est maîtrisée, notre immigration? Vous dites non à quasiment 95%. Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, le on s'en fout, on s'en fout pas. Restez avec nous, il est 10h-20.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4. Désolé, on rigole pendant la pub. Il y a une discussion. On va en faire un podcast. Et je vous dirai quand ça sera sur les podcasts. Bon, en attendant, il est 10h moins le quart.
C'est sur les relations entre les hommes et les femmes dans un couple.
Oui, mais pour là, du coup, on l'a eu sans l'enregistrer. Donc, on va faire en sorte de l'enregistrer. Comme ça, on vous dira ce que c'est.
For sure.
Je suis pas sûr, je dirais exactement les mêmes.
Maître Pégan, Abel Boyi, Antoine Diers, voilà la table du jour. Il est 10h moins le quart. On accueille Anaïs Inès Sainz.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Bonjour Anaïs.
Bonjour les GG. Bonjour à tous. Victor Wembanyama.
Wembanyama.
Alors
vas-y, comment tu le dis?
Wembanyama. Bah dis-le, Olivier.
Wemby, c'est son sort. Voilà, exactement.
C'est toujours la facilité. Wemby, c'est
donc,
fou, ça.
Se dit horrifié, les GG, par la mort de 2 citoyens américains tués donc ces derniers jours par l'ICE, la police anti-immigration à Minneapolis. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, ma chère Sandrine?
On ne s'en fout pas.
Antoine?
On s'en fout pas.
Abel?
On s'en fout pas.
La star de la NBA, pivot français des Spurs, s'est dit hier soir très inquiet. Tous les jours, je me réveille, je regarde l'actualité, je suis horrifiée. Je trouve ça fou que certaines personnes puissent donner l'impression que le meurtre de civils puisse être acceptable. Voilà ce qu'a dit le basketteur tricolore, qui craint aussi des sanctions contre lui en cas de critique. Vous savez, le service communication des Spurs a essayé de me conseiller, mais je ne vais pas sortir ici un discours politiquement correct. Fin de citation. Antoine, pourquoi tu t'en fous pas?
Il y a plusieurs choses. Il y a le fait que, évidemment, c'est intolérable qu'un civil meure sous les balles de la police, quoi. L'histoire n'est pas très claire. On a pendant un temps cru qu'il était armé. A priori, il l'était pas. Il était plutôt virulent dans la manifestation malgré tout, mais voilà, c'est anormal. Ensuite,
il a pris la défense d'une femme surtout. Hein.
Le deuxième aspect.
Déjà à la base, c'était ça.
Attendez, c'est anormal qu'il meure. Je le redis, voilà, c'est bon, je l'ai dit, c'est anormal, je ne souhaite la mort de personne. Ensuite, c'est l'utilisation qui est faite de ce genre de choses pour contester la politique de Trump. Et j'aime bien rappeler que l'ICE n'a pas été créé par Trump, ça a été créé en 2001.
En 2003.
Que Obama a expulsé plus d'étrangers que Trump sur les mandats comparables, etc. Donc voilà, c'est un sujet dramatique. Je regrette la mort d'un homme, mais on en fait un objet politique pour attaquer Trump.
Oui, mais Wemby, le fait qu'il s'exprime là-dessus.
Bah, c'est bien ce que je te dis, il tombe dans le piège pour attaquer Trump, en fait.
Non, d'accord. C'est pas qu'il tombe dans le piège. Wemby, c'est un Français qui en NBA depuis un peu moins de deux saisons, même s'il connaissait la société américaine, il y vit de façon quotidienne depuis peu de temps, depuis qu'il est chez les San Antonio Spurs. Et effectivement, comme tu dis, ICE a été créé en 2003 et pas en 2001, suite aux attentats justement de 2001. Et la mission de ICE à la base, c'était lutter contre le terrorisme et les narcotrafiquants. Trump a augmenté le budget de ICE en le faisant passer à 35 ou 37 milliards de dollars. C'est-à-dire que le budget de ICE est supérieur à celui du FBI aujourd'hui. Et surtout, il y a la communication qui est autour. Faut se souvenir du clip avec les Pokémon où les migrants étaient comparés à des Pokémon avec la musique, attrapez-les tous et tout. Et il y a la mise en scène surtout. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ont été arrêtés. Il y a des Américains qui ont été arrêtés parce qu'ils n'avaient pas la bonne couleur de peau. Et le sujet de ce jeune infirmier qui est mort fait tellement scandale que même Trump a dit qu'il y allait avoir une petite désescalade. C'est une manière de dire que l'administration allait aussi reculer. Donc c'est bien que Wembanyama puisse prendre la parole et casser un petit peu les règles préétablies de la NBA qui cadenassent tout le temps le discours des joueurs pour laisser place à une image trop lisse.
Sandrine, Maître Pégan.
Ben moi, pour aller dans la continuité, bravo à ce sportif quand même d'assumer, parce qu'à un moment donné, ça serait bien qu'ils en prennent exemple aussi en France, parce que c'est pas ce qui se passe. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas en France, les sportifs, ils se taisent. Et moi, je trouve que ça fait pas... pardonnez-moi, mais c'est quand même très très rare, parce que justement ils ont peur aussi des répercussions financières sur leur contrat, puisque donc on essaye tous de les museler. Et bien lui, en tout cas, la peur n'évite pas le danger. Il a dit voilà, moi je m'expose, et tant pis s'il y a des risques financiers.
Je crois pas que ça lui coûte grand chose. Honnêtement, c'est plutôt dans l'air du temps ce qu'il a dit. C'est pas une opposition.
Non, la NBA, faut savoir comment ça fonctionne. Elle cadenasse la communication des joueurs et avec NBA Cares et compagnie.
Attendez.
Oui, mais là, il est dans le politiquement correct.
Moi, je crois qu'il dit ça alors qu'en fait, c'est complètement dealé. Vous croyez que le mec, il va risquer une carrière? C'est dealé. Il faut que la NBA prenne un peu position. On va dire que c'est Wemby qui y va. Vas-y, tu dis ça et tu dis qu'on t'a dit de pas le dire.
Non, mais non, faut savoir comment ça fonctionne. Pourquoi à chaque fois faudrait qu'il y ait un deal, qu'il y ait une transaction pour que.
Les États-Unis, c'est parce que les États-Unis, c'est comme ça.
Non.
Tout est calculé, y compris quand je te dis. Quand je te dis, on m'a interdit.
Donc alors, il n'a pas de valeur,
le service
com
m'a interdit de dire ça. Mais peut-être qu'il en a. Et donc, c'était celui qui était le plus à même de le dire. Mais il va pas risquer sa carrière pour ce qu'il a dit. On se détend.
On verra. Les GG.
On verra si, par contre, un jour, s'il y a un fait divers, si Wembanyama intervient dans les faits divers en France, si tu veux. Parce que.
Ou c'est
un moment,
étranger.
Ils sont très silencieux sur les faits divers en France quand il y a des faits de société ou autre. On enchaîne.
Les GG, le procès de Joël Guerriau au tribunal correctionnel de Paris. L'ancien sénateur a été condamné à 4 ans de prison, dont un an et demi ferme, pour avoir drogué la députée de Loire-Atlantique, Sandrine Josso, à son insu un soir de novembre 2023. L'avocat de l'ex-parlementaire a annoncé que son client allait faire appel, ce qui rend la décision suspensive. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, ma chère Sandrine?
Pas du tout.
Antoine?
On s'en fout pas.
Abel?
On s'en fout pas.
Sandrine?
Moi, la seule chose qui m'a interpellée quand même dans cette décision, c'est que le tribunal a prononcé un mandat de dépôt. Un mandat de dépôt avec effet différé, donc c'est-à-dire qu'il ne repartait pas en prison à l'issue de l'audience, mais pas d'exécution provisoire. Donc ce qui veut dire que tout ce qui s'est passé auparavant dans les dossiers précédents, avec Marine Le Pen, avec Nicolas Sarkozy, etc., où l'exécution provisoire a été ordonnée, eh bien ils ont compris que finalement, il ne fallait pas que la politique rentre dans la justice. Ben, si, en tout cas, c'est comme ça que
j'ai l'impression. Parce que ce n'est pas la tête du client.
Ouais, Guerriau, pardonnez-moi, ce qu'il a fait, c'est quand même...
Bah oui, mais justement, alors là, excuse-moi, Nicolas Sarkozy... a été condamné sur des indices, il n'y a pas de preuves formelles qu'il ait touché de l'argent libyen.
Ils ont estimé que l'association de malfaiteurs était caractérisée.
Il y a des indices, enfin l'association de malfaiteurs, c'est assez large.
C'est assez large, mais ça a été caractérisé.
Et donc là, on dit exécution provisoire. Joël Guerriau est accusé, il est condamné pour avoir drogué une collègue, pour avoir ensuite, pour pouvoir la violer. Et lui, il n'a pas d'exécution provisoire. Alors, me dis pas que c'est pas la tête du client. Excuse-moi, je sais que tu défends la justice.
Mais c'est juste parce que justement, ils ont compris qu'aujourd'hui, les juges ne pouvaient pas aller au-delà.
Qui est le type le plus dangereux pour la société ? Un type qui est capable de droguer sa collègue pour la violer ou quelqu'un qui aurait pris de l'argent libyen il y a 20 ans pour financer une campagne ?
Sauf que justement, à partir du moment où tu as la possibilité de faire appel et que ça fait partie des droits de la défense, quand on te mettait une exécution provisoire, ça te coupait les mains.
Dans ce cas-là, il faut pas d'exécution provisoire pour personne.
Et ben, c'est pour ça que justement, je dis que par rapport au précédent, et le fait que là, ils aient changé, ça prouve que justement, maintenant, ils ont décidé de ne plus interférer au niveau politique dans les dossiers judiciaires.
Bon, on verra. C'est un cas, là, pour l'instant. C'est pas s'il y a une course.
Normalement, l'exécution provisoire, elle est automatique, sauf qu'elle ensuite, elle est laissée à discrétion
du juge. Elle est pas, d'une part, elle n'est pas de plein droit. Je préfère te le dire, Alain. Elle n'est pas de plein droit.
Avec la loi Sapin.
Non.
Oui, mais pas pour ces affaires-là.
Pas pour le
bah
pas
alors donc, elle est bien laissée à discrétion du juge.
L'exécution provisoire est de plein droit pour tout ce qui est dossier civil, les affaires familiales, ce genre de choses, même parfois au tribunal de commerce, mais jamais au tribunal judiciaire.
Alors,
vous avez dit tout ce que...
Non, moi, je veux juste te dire que, comme d'habitude, lorsqu'on parle de violences faites aux femmes, l'agresseur joue à la victime, il va faire appel, et j'espère...
Mais c'est son droit.
Oui, mais on a toujours le droit, mais quand même, on appelle ça la soumission chimique, en réalité, les faits sont avérés.
Juste un petit bémol, appelle.
Quand tu drogues quelqu'un pour pouvoir la violer, c'est la soumission chimique.
Mais alors, pardon, mais parfois, et ça, malheureusement, j'ai envie de dire, du côté de la défense, ça arrive très régulièrement, c'est-à-dire qu'en fait, devant la cour d'appel, tu es jugé plus sévèrement, parce qu'en fait, on te puni d'avoir fait appel.
Mais c'est ce que j'allais dire. J'espère qu'en appel, il va prendre plus cher parce que moi, j'en ai marre de cette communication des agresseurs qui jouent aux victimes et qui font culpabiliser la véritable victime dans une manipulation de communication qui est à gerber, tout simplement.
Oui, ça, oui. Les GG, qui de vous pourrait postuler au Groenland ? On recherche un consul général français là-bas, ça vous tente ?
Ah, j'y vais, moi.
Ah bon ? Le ministre des Affaires étrangères a publié une offre d'emploi sur Internet. Les candidatures sont à envoyer avant le 31 janvier. Dépêchez-vous, poste basé à Nuuk, évidemment, pour une prise de fonction le 6 février. C'est Jean-Noël Barrot qui avait annoncé il y a 15 jours l'ouverture de ce consulat français sur ce territoire autonome rattaché au Danemark. Face aux appétits grandissants.
Ça encore.
Est-ce que c'est vraiment utile? Il y a combien de Français là-bas?
Alors, Antoine tenté.
Il est tenté.
C'est normal, c'est quasiment le même climat que Dunkerque.
Voilà.
La France te remercie si tu veux.
J'exagère un petit peu.
Déjà des banquises à
Dunkerque. Consul, c'est pas un poste payé à plein temps. Consul, pardon. Consul général, c'est peut-être au-dessus, mais c'est pas un niveau ambassadeur.
C'est quand même, on crée un poste public.
En fait,
ils ont donné
le salaire.
Un consul n'est pas rémunéré ou indemnisé, etc. Et j'imagine que c'est un Français présent au Groenland qui va le prendre. Mais c'est pas mal, ça montre je vous promets, regardez, le consul, il a une indemnisation.
Ils ont donné le salaire entre 56 000 et 80 000 bruts.
J'ai pas regardé l'annonce.
Travaille tes dossiers, Antoine.
J'avoue, j'ai pas regardé l'annonce. Maintenant, je vais être candidat.
En fait, tout ça uniquement par symbole politique.
Mais
en plus.
Mais c'est important, ça sert à rien. Politique. La France défendra le Groenland.
Mais c'est pas grave, il veut y aller. Postule. T'as 15 jours avant le 31 janvier.
Je pense pas qu'ils me choisissent.
Ah, on sait jamais.
À suivre dans les GG, dans les grandes gueules, une étude européenne. Les Français sont désormais moins riches que la moyenne européenne. Et nous sommes rattrapés même à court terme par le niveau de vie des Polonais. Les Français s'appauvrissent. Est-ce que c'est votre cas ? C'est au 32-16 qu'on en discute avec vous.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.